Les informations avec Sébastien Berriot. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Antoine Jantan et bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, les permanences de la République en marche qui continuent de subir les conséquences de la ratification du CETA. Cette nuit, c'est la permanence du délégué général LREM qui a été taguée à Paris. Le récit à suivre de Sophie Delpont. Dans ce journal, nous irons aussi en République démocratique du Congo. L'épidémie d'Ebola prend de l'ampleur et touche désormais les villes. On écoutera l'inquiétude de la Croix-Rouge. À Varsovie, le face-à-face cet après-midi entre militants d'extrême droite et partis antifascistes. Chacun commémore à sa manière les 75 ans de l'insurrection de la capitale polonaise contre les nazis en 1944. On sera sur place avec Thomas Giraudeau. Aux Pays-Bas, la loi entre en vigueur aujourd'hui. Le voile intégral interdit dans certains lieux publics, mais il reste autorisé dans la rue. Et puis en France, la manif pour tous qui adopte un ton virulent pour dénoncer la prochaine ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Une vidéo publiée sur Twitter fait débat. Antoine Marette viendra nous expliquer. On en est ce soir donc à une quinzaine de permanences de la République en marche vandalisées depuis le début du mois de juillet. Des dégradations et des tags qui à chaque fois visent des parlementaires ayant voté la ratification du traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada. Rien que depuis le début de cette semaine, 6 permanences ont été taguées. Bonsoir Sophie Delpont.
Bonsoir.
La dernière en date à Paris, donc celle du délégué général de la République en marche, Stanislas Guérini.
Et avec de nouveaux slogans, la police tue, pouvait-on lire à côté de non au CETA, inscrit sur les vitres de la permanence du député de Paris et numéro 1 de la République en marche. Les tags qui ont été inscrits s'ajoutent à une série trop longue de lieux de démocratie endommagés, a déclaré Stanislas Guérini sur Twitter. En 24 heures, 3 autres permanences de députés LREM ont été taguées près de Paris dans le Val d'Oise depuis mercredi soir, avec là aussi des slogans hostiles à la police, en plus de ceux visant le CETA.
Et il faut souligner, Sophie, que ces nouvelles dégradations interviennent en pleine polémique visant le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner à propos de la mort de Steve Maya Canisso.
Après la découverte du corps du jeune homme dans la Loire lundi et la publication du rapport de l'IGPN dédouanant les forces de l'ordre au moment de la fête de la musique à Nantes, la semaine dernière, les dégradations touchaient des départements ruraux avec des actions revendiquées pour certaines par des syndicats agricoles comme les jeunes agriculteurs contre le CETA. 5 permanences de députés LREM avaient été vandalisées, taguées ou murées, notamment dans la Creuse et dans le Lot-et-Garonne vendredi dernier. Et samedi à Perpignan, des manifestants, dont certains cagoulés, avaient brisé toutes les vitres de la permanence où se trouvait le député Romain Gros, et tenté d'y mettre le feu en marge d'une manifestation de gilets jaunes. Le ministre de l'Intérieur avait qualifié les faits d'attentat, accusé là aussi par l'opposition d'attiser encore un peu plus les tensions.
Merci Sophie Delpont. La réforme de la fonction publique a été validée par le Conseil constitutionnel. Les sages ont rejeté le recours déposé par une soixantaine de députés de gauche, socialistes, communistes et insoumis. Ces parlementaires estimaient notamment que l'aménagement du droit de grève pour certains fonctionnaires n'était pas conforme à la loi fondamentale. Le Conseil constitutionnel n'a donc pas retenu leurs arguments. C'est un sujet de santé, mais aussi un sujet très politique qui a été emmené par Marine Le Pen au cœur de la dernière campagne présidentielle. Faut-il réformer l'aide médicale d'État, ce dispositif qui permet une prise en charge des dépenses de santé pour les étrangers en situation irrégulière? Aujourd'hui, ce sont 300 000 personnes qui en bénéficient pour un coût d'environ 1 milliard d'euros. Alors le gouvernement a demandé un rapport sur le sujet à l'inspection générale des finances et à l'inspection générale des affaires sociales. Les conclusions sont attendues pour le mois d'octobre, mais déjà plusieurs associations s'inquiètent de cette possible réforme. Médecins du Monde, par exemple, qui redoute une baisse des crédits. Christian Reboul est l'un des responsables de l'association.
Le fait d'avoir missionné cette mission vient corroborer différentes déclarations politiques qui ont pu avoir lieu précédemment. Si on se reporte au discours de politique générale d'Édouard Philippe, par exemple, on voit cette idée qui est avancée, comme quoi la France serait peut-être plus attractif du fait d'un système de santé. Or, on voit que les gens ne migrent absolument pas pour ces questions-là. Par ailleurs, il y a aussi des parlementaires qui ont été en pointe ces deux premières années. Si vous voulez, l'aide médicale de l'État est souvent attaquée au moment de la loi de finances ou alors pendant la loi asile-immigration par des amendements de la droite qui veulent réduire l'aide médicale d'État aux seuls soins urgents, vitaux et urgents. Sauf que c'est un non-sens en termes de santé publique, parce que ça veut dire que vous laissez sciemment les personnes se dégrader physiquement et psychiquement sur le territoire et que vous les prenez en charge à des stades plus avancés aux urgences. Et l'on sait aussi qu'une prise en charge aux urgences est beaucoup plus coûteuse qu'une prise en charge précoce par de la médecine de ville.
Quelles sont les prochaines échéances? Vous allez continuer à suivre l'affaire? Comment ça va se passer?
Le secteur de la santé est très mobilisé. Alors nous-mêmes, les ONG, maintenant nous savons qu'il y a d'autres secteurs de la santé qui se mobilisent. Nous allons bien sûr suivre ce qu'il va se passer, ce qu'il va sortir au moment de la loi de finances, la loi de finances pour la sécurité sociale, donc en septembre-octobre, et on va continuer effectivement à mobiliser.
Christian Reboul, de Médecins du Monde, qui répondait aux questions d'Ilan Malka. L'épidémie d'Ebola est en train de prendre de l'ampleur dans la région des Grands Lacs. Jusqu'ici, seules les campagnes étaient touchées dans l'est de la République démocratique du Congo, avec un bilan depuis un an de 1813 morts. Mais l'épidémie arrive désormais dans les villes, et notamment la grande ville de Goma. Déjà 2 morts et 2 autres cas détectés. Les autorités sanitaires et les ONG sont très inquiètes. Écoutez Thibaut Saint-Sébastien, c'est le chef de la délégation de la Croix Rouge française en RDC.
Il faut s'attendre effectivement à peut-être de nouveaux cas dans les jours à venir à Goma. Je pense que c'est très important de se réveiller, de se dire maintenant, arrêtons de courir derrière la maladie et derrière sa propagation, anticipons sa potentielle venue dans d'autres villes et mettons en place des mesures de prévention et de contrôle des infections dans toutes ces villes. Il est important maintenant de battre la maladie et ça se fera avec en fait des coups d'avance.
Et quelle est la situation sur place? Les gens ont peur, qu'est-ce qui est fait pour les rassurer?
L'objectif est vraiment d'éviter tout mouvement de panique. On a, depuis l'apparition du premier cas, accentué toutes les actions de sensibilisation dans les lieux publics pour rassurer la population et éviter en fait de se retrouver dans une sorte d'hystérie où les gens ont peur et du coup que ça nous dessert parce que en cas de symptômes, ils partent et se cachent.
Des propos recueillis par Juliette G. Et la progression de l'épidémie inquiète aussi des pays voisins du Congo-Kinshasa. Selon la présidence congolaise, le Rwanda a décidé de fermer sa frontière de manière unilatérale. Au Yémen, 2 attaques meurtrières ce matin dans la ville d'Éden, dans le sud du pays. Ce sont les forces de l'ordre fidèles au gouvernement yéménite qui étaient visées. Bilan au moins 49 morts, dont plusieurs policiers. L'une des attaques qui visait une caserne militaire a été revendiquée par les rebelles houthis qui combattent le régime yéménite. La Pologne commémore en ce jeudi 1er août les 75 ans de l'insurrection de Varsovie, le début de la résistance face à l'occupant nazi en 1944. 50 000 Polonais mobilisés, mais finalement écrasés par l'armée d'Hitler qui se vengera en détruisant la quasi-totalité de la capitale polonaise. Comme chaque année, les commémorations montrent un pays divisé avec 2 manifestations parallèles cet après-midi à Varsovie. D'un côté, les nationalistes et de l'autre, les antifascistes. Bonsoir Thomas Giraudeau.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de Varsovie pour France Culture. Vous suivez la première manifestation des mouvements d'extrême droite accusés par une partie de la société polonaise de récupérer les événements de 1944 à des fins politiques.
Oui, effectivement, et eux ne voient aucun problème à se rassembler entre eux, nationalistes, pour ce 1er août. Un jour supposé d'unité nationale autour de l'insurrection de Varsovie, un événement dramatique et fondateur de l'histoire polonaise récente. Et ils ont beau s'en défendre, ils se saisissent bien de l'insurrection à des fins politiques. Au micro, par exemple, un des organisateurs appelle le public à défendre les frontières ou à lutter contre l'idéologie LGBT, un sujet au cœur de l'actualité ces derniers jours en Pologne, depuis que ces mêmes nationalistes s'en sont pris à des manifestants lors d'une gay pride dans le nord-est du pays. Les LGBT, justement, ce sont eux qui instrumentaliseraient l'insurrection, utiliseraient le symbole de cette résistance contre les nazis, la Kotwica, une sorte d'encre de bateau, en la dessinant sur des drapeaux arc-en-ciel. C'est ce que m'a dit l'un des organisateurs, ainsi qu'une participante. Ils se défendent tous les deux de récupérer à leur compte l'insurrection, ce combat contre les nazis, et c'est ce que leur reprochent d'anciens insurgés. Ils sont très en colère et tentent de protéger leur symbole, porté très souvent par ces mêmes nationalistes. J'en vois beaucoup autour de moi sur des t-shirts, des drapeaux au-dessus du cortège. Pour tous les participants, il y a donc aucun problème. Ce symbole, la Côte Vissa, il est tellement banalisé en Pologne, tout le monde peut l'utiliser, le porter, quelles que soient ses opinions politiques. Et certains d'entre eux rappellent aussi à juste titre que des nationalistes ont participé à l'époque à l'insurrection, faisaient partie de la résistance. Pas sûr, en revanche, que tous les insurgés se retrouvent derrière la devise des nationalistes polonais, Dieu, honneur, patrie.
Merci Thomas Giraudeau en direct de Varsovie pour France Culture. La Grande-Bretagne se prépare à un Brexit sans accord. Le gouvernement va provisionner pour cela 2,3 milliards d'euros. Une somme qui permettra notamment de stocker des médicaments et d'embaucher aussi 500 douaniers supplémentaires. Les Pays-Bas interdisent également à leur tour le voile intégral. La nouvelle loi votée en 2018 après une quinzaine d'années de débats passionnés sur le sujet est entrée en vigueur aujourd'hui. Une loi différente de celle de la France. La burqa et le niqab sont interdits dans certains lieux, mais autorisés sur la voie publique. Explication de Laxmilota.
Les contrevenants risquent une amende de 150 euros. Contrairement à la France, où la loi est plus stricte sur le sujet, le port du voile intégral reste possible dans la rue aux Pays-Bas, sauf dans les transports en commun. Mais le réseau des bus, trams, trains ou métros prévient que les chauffeurs n'arrêteront pas leur véhicule pour faire descendre une femme en infraction. Cela entraînerait trop de retard. Pas de vêtements couvrant le visage également dans les établissements de soins. Là encore, plusieurs hôpitaux du pays déclarent qu'ils continueront à prodiguer des soins, peu importe les vêtements portés par la personne. Pour le ministère néerlandais de l'Intérieur, il s'agit d'une question de sécurité publique. Dans ces endroits, il est important que tout le monde puisse se reconnaître et se regarder, explique-t-il. Selon les estimations, sur 17 millions d'habitants, entre 200 et 400 femmes portent ce vêtement aux Pays-Bas. En France, le voile intégral est interdit dans tout l'espace public depuis 2010. La même interdiction est appliquée en Belgique depuis 2010 également. L'Autriche et le Danemark ont pris des dispositions similaires en 2017 et 2018.
La manif pour tous se prépare à la future loi bioéthique. C'est bien entendu l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires qui va mobiliser les militants de l'association dans les prochaines semaines. Et pour mieux faire entendre sa voix, la manif pour tous n'hésite pas à adopter un ton plus virulent que d'habitude. L'association publie sur son compte Twitter une vidéo contre le projet de loi. La PMA pour toutes y est rebaptisée PMA sans père. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir.
Vous avez visionné cette vidéo.
Une vidéo d'un peu moins de 2 minutes dans laquelle on peut entendre notamment ceci.
Les enfants interdits par la loi d'action en recherche de paternité, c'est le retour aux bâtards du 19e siècle. Et nous, on ne veut pas de cet obscurantisme.
Vous avez bien entendu, les futurs enfants nés d'une PMA pour toutes sont comparés aux bâtards du 19e siècle. Ces propos sont ceux d'Aude Mirkovic, porte-parole de Juristes pour l'enfance, une association proche de la Manif pour tous, des propos assumés par la présidente de la Manif pour tous, Ludovine de la Rochère.
Ce sont des mots assez crus qui désignent une réalité sur laquelle il est nécessaire de s'interroger. Et l'auteur de cette phrase, Aude Mirkovic, dit que justement elle est opposée au fait qu'un enfant ne puisse pas établir sa filiation paternelle. Et c'est pour ça qu'Aude Mirkovic dit que c'est un retour en arrière à une époque où des enfants ne pouvaient être et ne pouvaient se faire reconnaître par leur père.
Car pour la manif pour tous, on ne doit pas dissocier le géniteur du père au nom d'un prétendu ordre naturel. D'où cette campagne choc et même choquante pour la coprésidente de l'association des parents gays et lesbiens, Marie-Claude Picarda.
C'est suscité de nouveau la haine et l'invective à l'égard de nos familles. Et c'est vraiment des manœuvres extrêmement basses de gens qui, à mon avis, sont en train de perdre et qui n'ont plus que ce recours-là pour s'opposer à des projets de loi qui sont des projets égalitaires. C'est le noyau dur de la manif pour tous qui s'exprime là, parce que finalement le gros des troupes n'est plus là. Donc on est en train de tourner autour d'un noyau radical qui manifeste contre nous depuis des années de la haine, de l'intolérance et de la volonté de diffamer et d'insulter.
Ce clip sert surtout de teasing pour la prochaine manifestation contre la PMA dite sans père, prévue le 6 octobre à Paris. La manif pour tous espère à cette occasion remobiliser ses troupes.
Merci Antoine Marette. Les prévisions de Météo France pour la journée de demain, des averses le matin dans l'est du pays et sur les Alpes du Nord. Ailleurs, un temps gris avec des nuages, notamment notamment sur le Piémont pyrénéen, la Bretagne et les Hauts-de-France. Température l'après-midi, 19 degrés à Brest, 21 à Lille, 22 à Bayonne et 30 degrés à Nîmes. Il est 18h15 sur France Culture. Merci d'avoir suivi ce journal préparé avec Jean-François Braun. Les prochaines informations, ce sera demain matin à 7h sur France Culture avec Clara Lecoq-Réal.